sono il fortunato ragazzone, recente acquisto dell'umanità. Ho una superba faccia da frescone, esuberante imbecillità. Sportivo a tempo perso, un po' monello, con la pipetta in bocca me ne vo. Matteggio a prepotente, a picchiatello, poi saputello, eppure nulla so. Marcello, io sono il piccolo Marcello, baffutello e sbarbatello, sfrontatello e spacciatello.
Marcello,
sono più leggero di un fuscello, più prezioso di un gioiello, più innocente di un porcello.
Marcello,
Marcello di qua, Marcello di là, Marcello di su, Marcello di giù. È strano, lo so, ma un fascino, no, ce l'ho, ce l'ho, ma chi che bimbindina che ce l'ho? Marcello, son fatuo come un venticello, lieto come uno stornello, fesso come un somarello.
Marcello,
col microscopico cervello, più piccino d'un pisello, penso solo che sono bello, sono il bello di mamma. Ormai con la bellezza solamente si può ghermire la celebrità. Sono molto noto infatti alla gente che come me non tiene a che pensare. Io so cantare come Raffaiati e vesto con quel certo non so che. Ho gusti delicati e raffinati, vorrebbe ognuno somigliare a me. Marcello, tutti mi chiedono il modello della giacca, del cappello, del colletto e dell'ombrello.
Marcello,
mi copiano tutti questo quello, dalla scarpa di vitello al mio passo di cammiello.
Marcello
di qua, Marcello di là, Marcello di su, Marcello di giù, non vedo che me, non so neanche me. Marce, Marce, ma Marce, beh, che c'è?
Marcello,
ti a mezza voce canterello, qualche sciocco ritorniello, canton tutti sono quello.
Marcello,
ma soldato questo quello, ma sta a caso, signor Marcello. E perché? Perché son bello, sono il bello di mamma.
Bonsoir e benvenuti su Radio Galera 88.4 FM. Vous êtes à l'écoute de Nino Domani a Palermo, émission qui au départ de la culture italienne élabore les différentes thématiques pour accoster sur des rivages lointains. Et aujourd'hui, on atterrit sur Anouchka et sur les plaisirs de l'oubli. Salut Anouchka! Tambo prénom, Anouchka, c'est de quelle origine?
Salut Simone. Ce prénom est d'origine polonaise, mais c'est un pseudo pour oublier celui que mes géniteurs m'ont attribué.
Un peu comme Malcolm X qui voulait oublier, qui a choisi X parce qu'il voulait oublier les prénoms qu'il est blanc avait attribué à ses ancêtres, les noms de famille.
Alors franchement, j'ai pas cette prétention de lutte, mais sur la forme, ça se rejoint.
Donc, on va dire que c'est moins fort, mais le principe, c'est le même. Ok. Alors, on va un peu rentrer dans la thématique de l'oubli, la thématique d'aujourd'hui. Il faut dire qu'il y a des gens qui oublient en se jetant au fond dans le boulot. Il y a des gens qui oublient avec différentes activités plus ou moins, comment dire,
licites
et bénéfiques. Mais il y a beaucoup de gens qui oublient d'une autre façon. Et je pense que ce n'est pas une question d'aujourd'hui, toujours ça a été comme ça. Par exemple, au 19e siècle, on pense aux peintures de Degas, dans laquelle il y avait, on va dire, on présume qu'il c'est un prostitué et un clochard qui sont devant un verre d'absinthe dans un bistrot totalement perdu avec le regard dans le vide. Et parce qu'en fait, c'était plutôt à cette époque-là, c'était plutôt les marginaux qui se délaissaient au plaisir de l'alcool et de l'opium à l'époque. Et la bourgeoisie critiquait beaucoup ça. Je t'invite, Annick, à réfléchir sur une phrase qui a écrit Baudelaire dans son poème de la chiche et de l'opium. Et dans cette phrase, il dit « Vous pourrez jamais enlever à la classe ouvrière le plaisir de l'oubli. » Qu'est-ce que tu en penses?
Écoute, moi, ça me parle parce que je pense que dans chaque moment historique, enfin, de notre histoire, il s'est trouvé des gens non conformes à leur époque. Et je pense qu'ils attendaient un changement profond de leur société dans laquelle ils se trouvaient coincés. Et leur seul échappatoire, c'était ces plaisirs de l'oubli pour continuer à survivre.
Donc,
et hier comme aujourd'hui, on retrouve les mêmes phénomènes.
Ah, par exemple.
Par exemple, l'usage de stupéfiants aujourd'hui, ça fait une économie parallèle. Et pendant que cette jeunesse se drogue, elle oublie de se révolter.
Eh oui, on va dire qu'en même temps, la bourgeoisie critiquait l'utilisation des sostances psychotrophiques, mais en même temps, les patrons encourageaient les ouvriers, entre guillemets, à consommer de l'alcool ou à se droguer parce que... Il encourageait à être impuissant.
Absolument. Tant que les gens et cette jeunesse, surtout, sont dépendants d'un produit, que ce soit l'alcool, que ce soit même d'autres produits addictifs, on empêche toute révolte.
Donc on peut reprendre un peu la phrase de Karl Marx et la modifier et dire que l'opium est l'opium des peuples. Parce que Karl Marx, il disait que la religion empêche la révolte, dans le sens qu'à l'époque, au 19e siècle, les pauvres restaient pauvres, après il y avait la providence, il ne faut pas se révolter, le royaume de Dieu va arriver, nous on arrivera au paradis, on accepte la réalité. Donc la religion empêche la révolte. Et aujourd'hui, un peu comme hier, c'est un peu les substances qui empêchent, et l'alcool qui empêche la révolte, parce qu'on est un peu narcoleptique, on est un peu endormi dans cette...
Mais parce que je crois qu'on a tous besoin du plaisir de l'oubli, quoi.
Donc voilà, je suis d'accord avec toi, et si on veut être un peu de côté, les concepts un peu plus de lutte de classe, on va parler de quelque chose de plus, on met à part les concepts de lutte de classe et on va parler de quelque chose de plus introspectif, on va parler des paradis artificiels, du plaisir de l'oubli et du paradis tout court. Voilà.
Je peux t'inviter à écouter une chanson?
Mais oui, bien sûr. Dis-moi laquelle.
Mais je t'invite à écouter L'attaque de mon âme de Daniel Darkin.
Allez, à l'écoute, Annick.
Bientôt, peut-être, sait-on jamais avec le hasard.
Oh, parier grand, vous savez.
Parier tout petit pour ceux qui s'aiment comme nous d'un aussi grand amour.
Écoute l'histoire. Si tu savais mon cœur, rien. Si tu savais mes yeux, rien. Si tu savais mes mains, rien. Si tu savais mes reins, rien. Si tu savais mes jambes, rien. Si tu savais mes bras, rien. Si tu savais mon ventre, rien. Si tu savais mes fesses, rien. Mais si seulement tu savais la taille de mon âme. Si seulement tu savais la taille de mon âme. Mais si seulement tu savais. Si tu savais mes lèvres, rien. Si tu savais mes cris, rien. Si tu savais mes jours, rien. Si tu savais mes nuits, rien. Si tu savais mes rêves, rien. Si tu savais mes rires, rien. Si tu savais mes joies, rien. Et si seulement tu savais la taille de mon âme. Si seulement tu savais la taille de mon âme. Mais si seulement tu savais la taille de mon âme. Si seulement tu savais la taille de mon âme. Mais si seulement tu savais la taille de mon âme.
Je voyais sans doute dans mes rêves. Ne souriez pas. Aujourd'hui, en jetant cette fleur, peut-être m'avez-vous réveillé pour toujours.
Quel drôle de garçon vous faites.
Si tu savais mon cœur.
Comme vous êtes belle.
Je ne suis pas belle, je suis vivante, c'est tout.
Rien.
Donc, la taille de mon âme, je ne suis pas belle, je suis vivante, c'est tout. Je te demande Annick
Nouchka,
pardon, parfois j'oublie ton pseudo, ça me revient ton prénom, excusez-moi. Anouchka, il faut dire Anouchka, aujourd'hui on est avec Anouchka.
Sinon je t'appelle Siméon.
Moi je suis Siméon, hein. Tout le monde m'appelle. Tout le monde, ça veut dire que Anouchka m'appelle Siméon. En tout cas, on revient à nous, à la taille de ton âme. L'autre fois, tu m'as parlé d'une phrase de l'Évangile, non? On n'est pas trop catholique, mais quand même, c'est une belle phrase. Tu veux nous parler de ça?
Pas trop catholique. Ouais, moi, il y a une phrase quand même qui m'interpelle, c'est « Heureux les simples d'esprit ».
D'accord.
Et pour moi, un simple d'esprit, c'est pas quelque chose de péjoratif. Hein. Ce serait des gens qui arrive à vivre sans avoir besoin de plaisir, de l'oubli, de façon simple et optimiste.
Donc, même s'il y a une vie qui est dure, il n'y a pas forcément la nécessité d'oubli. Hein.
Ouais, je pense. Moi, je viens d'une famille d'immigrés polonais et ch'tis. Et j'ai l'exemple d'un oncle et d'une tante. Voilà, l'oncle, il bosse à l'usine. Son père avait bossé à la mine. Et c'était des gens, mais d'une simplicité et d'une beauté. Leur porte était toujours ouverte. Il n'y avait pas de serrure sur leur porte. Quand tu arrivais chez eux, ça sentait la
yoli.
Non, pas la yoli, c'était dans le nord, plus cher.
La chicorée.
Ça sentait la cheminée et la chicorée.
La chicorée, voilà.
Et les gens, ils rentraient, même pas ils frappaient. Ils rentraient, ils buvaient leur café. Et tous les jours, ils faisaient de leur journée une fête. Et ils n'avaient pas besoin d'oublier. Ils n'avaient rien à oublier, ils étaient heureux.
C'est beau la simplicité, et moi je me demande souvent, je me suis posé la question, parce que moi j'ai aussi la tendance à oublier, j'ai aussi la tendance à me servir de l'alcool maintenant, quand j'étais plus jeune d'autres choses aussi, mais souvent on a cette tendance à vouloir nous oublier peut-être, mais je pense souvent au charme de la lucidité. Qu'est-ce que tu en penses à propos du charme de la lucidité? Et par rapport au plaisir de l'oublier. Allez, on va les comparer.
Alors, pour moi, il n'y a aucun charme à la lucidité.
Pourquoi ?
Bon, je m'autorise à aller, on va dire, une heure par jour, hein, histoire de faire mes démarches administratives. Et très vite, j'ai le plaisir de l'oubli. C'est...
Qu'est-ce que c'est l'oubli pour toi ? Parce qu'on a beaucoup parlé de ça, mais on n'a pas vraiment approfondi ça. Qu'est-ce que c'est l'oubli ?
Je pense que, à mon sens, enfin, pour moi,
okay.
Je parle à mon nom, pas, voilà. Pour moi, moi, j'ai besoin de retrouver cette béatitude du nourrisson blotti contre le sein de sa mère, de ce sein nourricier et sécurisant, et de lâcher prise.
Donc voilà,
et je pense que beaucoup d'adultes recherchent cet instant de providence.
De lâcher prise.
De lâcher prise. On vit dans une société où on n'a pas le droit de lâcher prise.
Mais oui, on est tout, on est très en marche. À propos du lâcher prise, je pense à une chanson italienne cette fois qui s'appelle Amerigo. Et dans cette chanson, bon, il y a des thématiques. La thématique principale, c'est l'immigration. On parle de mines, on parle de polonais, on parle d'italien, mais là, une thématique secondaire qui fait la thématique de la mémoire. Et lui, l'auteur, il voit dans ce vieux, dans cet homme, qui a passé sa vie comme immigré, il travaillait, il était mineur en Amérique. Il revient et il dit « Jeunesse perdue ». E qualche sud alla poche, il revient dans son village in Italie. E l'auteur, il le connaît, qu'il était déjà vieux, lui était jeune. Et la chanson commence, style. Ben, on va l'écouter, après je vais vous donner quelques.
Oui, Simone, arrête de parler, mets-nous la
Mais
chanson.
Mais on parlait trop. Allez, fini, s'il te plaît. Amerigo de Guccini.
Chiudendo dietro a sé. La porta verde, qualcuno si era alzato a preparargli in fretta un caffè d'orzo. Non so se si girò, non era il tipo d'uomo che si perde in nostalgie da ricchi e andò per la sua strada. Senza sforzo. Quando io l'ho conosciuto, ho inizio a ricordarlo. Era già vecchio. Oh, così a me sembrava, ma allora non andavo ancora a scuola. Colpiva il cranio raso e un misterioso e strano suo apparecchio, un cinto d'ernia che sembrava una fondina per la pistola. Ma quel mattino aveva il viso dei 20 anni, senza rughe, per rabbia ed avventura. E ancora vaghe idee di socialismo. Parole dure al padre e dietro tradizione di fame e fughe. E per il suo lavoro, quello che schianta e uccide, il fatalismo. Ma quel mattino aveva quel sentimento nuovo per casa e madre, e per scacciarlo aveva in corpo il primo vino di una cantina. E già sentiva in faccia l'odore d'olio e mare che fa le avre, e già sentiva in bocca l'odore della polvere della mina. America era allora per me i GI di Roosevelt, la quinta armata. L'America era Atlantide, l'America era il cuore, era il destino. L'America era live, sorrisi a denti bianchi su patinata. L'America era il mondo sognante e misterioso di Paperino. L'America era allora per me provincia dolce, mondo di pace, perduto paradiso, malinconia sottile, nevrosi lenta e Gunga di Neringo, gli eroi di Casablanca e di Forta Pace. Un sogno lungo il suono continuo ed ossessivo che fa illimentra. Non so come la vide quando la nave offrì New York vicino, dei grattacieli il bosco, città di feci e strade, urla, castello e pava da un ricordo lasciato fra i castagni dell'Appennino. L'inglese un suono strano che lo feriva al cuore come un coltello, e fu lavoro e sangue e fu fatica uguale, mattina e sera, per anni da prigione, di birra e di puttane, di giorni duri, di negri e di irlandesi, polacchi ed italiani nella miniera, sudore d'antracite in Pennsylvania, Arkansas, Texas, Missouri. Tornò come fa molti, due soldi e giovinezza ormai finita. L'America è un angolo, l'America è un'ombra, nebbia sottile. L'America era un'ernia, un gioco di quei tanti che fa la vita, e dire boss per capo e ton per tonnellata, rai per fucile. Quando io l'ho conosciuto, ho inizio a ricordarlo, era già vecchio, sprezzante come i giovani, gli scivolavo accanto senza afferrarlo, e non capivo che quell'uomo era il mio volto, era il mio specchio, finché non verrà il tempo in faccia a tutto il mondo per rincontrarlo. Finché non verrà il tempo in faccia a tutto il mondo per rincontrarlo. Finché non verrà il tempo in faccia a tutto il mondo per rincontrarlo.
E voilà, Nick, mamma, si compiuto, Anushka, pardon, se volete dire, mamma, si compiuto, se parla come un vasso spagnolo, sentiamo tradurre questa canzone là, perché per tutta, fino a se long come canzone, ma in fatto, se vuoi dire, se Tom revient dans son village, il passe, il par de son village avec un rage immense pour son père, un sentiment nouveau pour sa mère et pour sa maison, et pour oublier tout ça, il avait dans le corps les premières vins d'une taverne. Donc il part, il prend le bateau, parce qu'à l'époque on prenait le bateau pour aller en Amérique, et quand il voit New York de près, il se sent ému, mais en fait qu'est-ce qu'il fait? Il fait un vie de merde, il va dans les mines, il est avec des Italiens, lui, des Polonais, des Irlandais, des Noirs, à travailler matin et soir, la fatigue, la faim, une vie de prison, de bière et de pute. Et pour revenir à un fan qui est déjà vieux, il a une ceinture bizarre qui est en fait une ceinture pour l'hernie qui rassemble un étui, on dit, un étui pour la pistolet.
Ouais, je sens.
Et lui, il regarde l'enfant, il regarde bizarrement. Et surtout, il le dit à la fin de la chanson, il reprend le même vers qu'au début de la chanson. Il dit, quand je l'ai connu, il était déjà vieux. Mais je ne comprenais pas que cet homme, c'était mon miroir, c'était mon réflexe, les années écroulées. Donc, Annick, je te dis, une personne avec une vie dure, comme cet homme, comme Amerigo, qui est quand même différente par rapport au reste des personnes, au reste du monde, on va dire, qui a cette vie dure et qui a cette forme de fatalisme envers la vie, è una persona più jeune, ma che è comune per questo fatalismo e questa visione della vita. Il se voit dans des phases della vita differenti e l'un revoit dans l'autre son proprio miroir. Le jeune revoit la persona quelques années plus vieille son proprio miroir. Et voilà, ça m'a fait penser à ça. Plus que l'oubli, la dureté de la vie, et qui nous oblige à l'oubli. Tu veux nous dire quelque chose?
La dureté de la vie nous oblige à l'oubli.
Selon moi, oui.
Ouais, je pense que c'est plus facile d'être suisse. Hein.
D'être suisse. D'être comme des artichauts, en fait. D'être carré, d'être... Pourquoi suisse? Qu'est-ce que tu entends?
Bah, attends, non, j'entends rien.
Tu voulais nous saluer avec un dernier morceau?
Avec une chanson suisse, non. Non, effectivement, ouais, les plaisirs de l'oubli. Tu sais quoi, je suis contente d'être avec toi aujourd'hui.
Merci.
Parce que l'Italie, la Pologne... on fait partie de la troisième génération de migrants, quoi.
Non, moi je suis première, moi je suis immigré là.
Retourne chez toi. Et en gros, c'est voilà, c'est des vies que nos grands-parents ont vécues. Et putain, ils ont bien réussi quand même.
Eh oui, peut-être, mais nous.
Ils ont. Ouais, je sais pas s'ils ont oublié, s'ils étaient dans le plaisir de l'oubli. Je pense qu'ils ont vécu des vies très dures pour que nous, on la vive un peu plus soft.
Soit les immigrés, outre être obligés à l'oubli, sont confrontés à la nostalgie aussi. Mais il faut serrer les dents et continuer cette lutte, non?
Ma grand-mère paternelle, polonaise, a refusé de parler polonais avec toute sa famille.
Bah ça, c'était un choix commun à beaucoup...
Alors, je sais pas si ça faisait partie du plaisir de l'oubli ou pour faire... genre, je suis trop française.
Peut-être. Après, c'était une politique imposée un peu à l'époque, même de la part de l'État. On disait que les enfants qui ne parlaient pas que les Français, ils avaient du mal à apprendre les Français. Ça. Mais en réalité, des langues différentes sont des richesses différentes. Bon, tu voulais nous faire écouter... Un morceau, non?
Ouais, tu m'autorises?
J'aime bien sûr, là. On est là pour ça.
Alors c'est un texte qui a été mis en musique par les Tetraeds. C'est un texte d'un poète, Stig Dagerman. Alors je sais pas comment ça se prononce.
Dagerman, je crois, oui.
Ouais.
Et
ça s'appelle Notre besoin de consolation.
Et c'est une sorte d'héritage de ce texte, non?
Je vous laisse écouter.
On écoute. Et on vous dit... Vabbè, on écoute, allez. Après, on vous le dit. on écoute.
Dépourvu de foi et ne puis donc être heureux, car un homme qui risque de craindre que sa vie ne soit une errance absurde vers une mort certaine ne peut être heureux. Je n'ai reçu en héritage ni Dieu ni point fixe sur la terre d'où je puisse attirer l'attention d'un Dieu. On ne m'a pas non plus légué la fureur bien déguisée du sceptique, les ruses dessous du rationaliste ou la candeur ardente de l'athée. Je n'ose donc jeter la pierre, ni à celle qui croit en des choses qui ne m'inspirent que le doute, ni à celui qui cultive son doute, comme si celui-ci n'était pas lui aussi entouré de ténèbres. Cette pierre m'atteindrait moi-même, car je suis bien certain d'une chose, le besoin de consolation que connaît l'être humain est impossible à rassasier. En ce qui me concerne, je traque la consolation comme le chasseur traque le gibier. Partout où je crois l'apercevoir dans la forêt, je tire. Souvent je n'atteins que le vide, mais une fois de temps en temps, une proie tombe à mes pieds. Et comme je sais que la consolation ne dure que le temps d'un souffle de vent dans la cime d'un arbre, je me dépêche de m'emparer de ma victime. Tiens-je alors entre mes bras. Puisque je suis solitaire, une femme aimée ou un compagnon de voyage malheureux, puisque je suis poète, un arc de mots que je ressens de la joie et de l'effroi à bander, puisque je suis prisonnier, un aperçu soudain de la liberté, puisque je suis menacé par la mort, un animal vivant et bien chaud, un cœur qui bat de façon sarcastique, puisque je suis menacé par la mer, un récif de granit bien dur. Mais il y a aussi des consolations qui viennent à moi sans y être convié et qui remplissent ma chambre de chuchotements odieux. Je suis ton plaisir, aime-les tous. Je suis ton talent, fais-en aussi mauvais usage que de toi-même. Je suis ton désir de jouissance, seuls vivent les gourmets. Je suis ta solitude, méprise des hommes. Je suis ton aspiration à la mort, alors tranche. Le fil du rasoir est bien étroit. Je vois ma vie menacée par deux périls. D'un côté par les bouches avides de la gourmandise, de l'autre par l'amertume de l'avarice qui se nourrit d'elle-même. Mais je tiens à refuser de choisir entre l'orgie et l'ascèse, même si je dois pour cela subir le supplice du grill de mes désirs. Pour moi, il ne suffit pas de savoir que, puisque nous ne sommes pas libres de nos actes, tout est excusable. Ce que je cherche, ce n'est pas une excuse à ma vie, mais exactement le contraire d'une excuse. Le pardon. L'idée me vient finalement que toute consolation, ne prenant pas en compte ma liberté, est trompeuse, qu'elle n'est que l'image réfléchie de mon désespoir. En effet, lorsque mon désespoir me dit « Perds confiance, car chaque jour n'est qu'une trêve entre deux nuits », la fausse consolation me crie « Espère, car chaque nuit n'est qu'une trêve entre deux jours ». Mais l'humanité n'a que faire d'une consolation en forme de mot d'esprit. Elle a besoin d'une consolation qui illumine. Et celui qui souhaite devenir mauvais, c'est-à-dire devenir un homme qui agisse comme si toutes les actions étaient défendables, doit au moins avoir la bonté de le remarquer lorsqu'il y parvient. Personne ne peut énumérer tous les cas où la consolation est une nécessité. Personne ne sait quand tombera le crépuscule. Et la vie n'est pas un problème qui puisse être résolu en divisant la lumière par l'obscurité et les jours par les nuits. C'est un voyage imprévisible entre des lieux qui n'existent pas. Je peux par exemple marcher sur le rivage et ressentir tout à coup le défi effroyable que l'éternité lance à mon existence dans le mouvement perpétuel de la mer et dans la fuite perpétuelle du vent. Je deviens alors le temps, si ce n'est une consolation pour le fait que rien de ce qui est humain ne dure. Et cette misérable consolation qui n'enrichit que les Suisses. Je peux rester assis devant un feu dans la pièce la moins exposée de toutes au danger et sentir soudain la mort me cerner. Elle se trouve dans le feu, dans tous les objets pointus qui m'entourent, dans le poids du toit et dans la masse des murs. Elle se trouve dans l'eau, dans la neige, dans la chaleur et dans mon sang. Que devient alors le sentiment humain de sécurité si ce n'est une consolation pour le fait que la mort est ce qu'il y a de plus proche de la vie? Et quelle misérable consolation qui ne fait que nous rappeler ce qu'elle veut nous faire oublier. Je peux remplir toutes mes pages blanches avec les plus belles combinaisons de mots que puisse imaginer mon cerveau. Étant donné que je cherche à m'assurer que ma vie n'est pas absurde et que je ne suis pas seul sur la terre, je rassemble tous ces mots en un livre et je l'offre au monde. En retour, celui-ci me donne la richesse, la gloire et le silence. Mais que puis-je bien faire de cet argent? Et quel plaisir puis-je prendre à contribuer au progrès de la littérature? Je ne désire que ce que je n'aurais pas. Confirmation de ce que mes mots ont touché le cœur du monde. Et que devient alors mon talent si ce n'est une consolation pour le fait que je suis seul? Mais quelle épouvantable consolation qui me fait simplement ressentir ma solitude 5 fois plus fort. Je peux voir la liberté incarnée dans un animal qui traverse rapidement une clairière et entendre une voix qui chuchote « Vis simplement, prends ce que tu désires et n'aie pas peur des lois. » Mais qu'est-ce que ce bon conseil si ce n'est une consolation pour le fait que la liberté n'existe pas? Et quelle impitoyable consolation pour celui qui s'avise que l'être humain doit mettre des millions d'années à devenir un lézard. Pour finir, je peux m'apercevoir que cette terre est une fosse commune dans laquelle le roi Salomon, Ophélie et Himmler repose côte à côte. Je peux en conclure que le bourreau et la malheureuse jouissent de la même mort que le sage, et que la mort peut nous faire l'effet d'une consolation pour une vie manquée. Mais quelle atroce consolation pour celui qui voudrait voir dans la vie une consolation pour la mort! Je ne possède pas de philosophie dans laquelle je puisse me mouvoir comme le poisson dans l'eau, l'oiseau dans le ciel. Tout ce que je possède est un duel, et ce duel se livre à chaque minute de ma vie entre les fausses consolations qui ne font qu'accroître mon impuissance et rendre plus profond mon désespoir, et les vrais qui me mènent vers une libération temporaire. Je devrais peut-être dire la vraie, car à la vérité il n'existe pour moi qu'une seule consolation qui soit réelle, celle qui me dit que je suis un homme libre, un individu inviolable, un être souverain à l'intérieur de ses limites. Mais la liberté commence par l'esclavage et la souveraineté par la dépendance. Le signe le plus certain de ma servitude est ma peur de vivre. Le signe définitif de ma liberté est le fait que ma peur laisse la place à la joie tranquille de l'indépendance. On dirait que j'ai besoin de la dépendance pour pouvoir finalement connaître la consolation d'être un homme libre. Et c'est certainement vrai. À la lumière de mes actes, je m'aperçois que toute ma vie semble n'avoir eu pour but que de faire mon propre malheur. Ce qui devrait m'apporter la liberté m'apporte l'esclavage et des pierres en guise de pain. Les autres hommes ont d'autres maîtres. En ce qui me concerne, mon talent me rend esclave au point de ne pas oser l'employer, de peur de l'avoir perdu. De plus, je suis tellement l'esclave de mon nom que j'ose à peine écrire une ligne de peur de lui nuire. Et lorsque la dépression arrive finalement, je suis aussi son esclave. Mon plus grand désir est de la retenir. Mon plus grand plaisir est de sentir que tout ce que je valais résidait dans ce que je crois avoir perdu. La capacité de créer de la beauté à partir de mon désespoir, de mon dégoût et de mes faiblesses. Avec une joie amère, je désire voir mes maisons tomber en ruine et me voir moi-même enseveli sous la neige de l'oubli. Mais la dépression est une poupée russe et dans la dernière poupée se trouve un couteau, une lame de rasoir, un poison, une eau profonde et un seau dans un grand trou. Je finis par devenir l'esclave de tous ces instruments de mort. Ils me suivent comme des chiens, à moins que le chien, ce ne soit moi. Et il me semble comprendre que le suicide est la seule preuve de la liberté humaine. Mais venant d'une direction que je ne soupçonne pas encore, voici que s'approche le miracle de la libération. Cela peut se produire sur le rivage, et la même éternité qui, tout à l'heure, suscitait mon effroi, est maintenant le témoin de mon accession à la liberté. En quoi consiste donc ce miracle? Tout simplement dans la découverte soudaine que personne, aucune puissance, aucun être humain, n'a le droit d'énoncer envers moi des exigences telles que mon désir de vivre vienne à s'étioler. Car si ce désir n'existe pas, qu'est-ce qui peut alors exister? Puisque je suis au bord de la mer, je peux apprendre de la mer. Personne n'a le droit d'exiger de la mer qu'elle porte tous les bateaux ou du vent qu'il gonfle perpétuellement toutes les voiles. De même, personne n'a le droit d'exiger de moi que ma vie consiste à être prisonnier de certaines fonctions. Pour moi, ce n'est pas le devoir avant tout, mais la vie avant tout. Tout comme les autres hommes, je dois avoir droit à des moments où je puisse faire un pas de côté et sentir que je ne suis pas seulement une partie de cette masse que l'on appelle la population du globe, mais aussi une unité autonome. Ce n'est qu'en un tel instant que je peux être libre vis-à-vis de tous les faits de la vie qui auparavant ont causé mon désespoir. Je peux reconnaître que la mer et le vent ne manqueront pas de me survivre et que l'éternité se soucie peu de moi. Mais qui me demande de me soucier de l'éternité? Ma vie n'est courte que si je la place sur le billot du temps. Les possibilités de ma vie ne sont limitées que si je compte le nombre de mots ou le nombre de livres auxquels j'aurai le temps de donner le jour avant de mourir. Mais tu me demandes de compter. Le temps n'est pas l'étalon qui convient à la vie. Au fond, le temps est un instrument de mesure sans valeur, car il n'atteint que les ouvrages avancés de ma vie. Mais tout ce qui m'arrive d'important et tout ce qui donne à ma vie son merveilleux contenu. La rencontre avec un être aimé, une caresse sur la peau, une aide au moment critique, le spectacle du clair de lune, une promenade en mer à la voile, la joie que l'on donne à un enfant, le frisson devant la beauté, tout cela se déroule totalement en dehors du temps, car peu importe que je rencontre la beauté, l'espace d'une seconde ou l'espace de 100 ans, non seulement la félicité se situe en marge du temps, mais elle nie toute relation entre celui-ci et la vie. Je soulève donc de mes épaules le fardeau du temps et par la même occasion celui des performances que l'on exige de moi. Ma vie n'est pas quelque chose que l'on doive mesurer. Ni le saut du cabri, ni le lever du soleil ne sont des performances. Une vie humaine n'est pas non plus une performance, mais quelque chose qui grandit et cherche à atteindre la perfection. Et ce qui est parfait n'accomplit pas de performance. Ce qui est parfait œuvre en état de repos. Il est absurde de prétendre que la mer soit faite pour porter des armadas et des dauphins. Certes, elle le fait, mais en conservant sa liberté. Il est également absurde de prétendre que l'homme soit fait pour autre chose que pour vivre. Certes, il approvisionne des machines et il écrit des livres, mais il pourrait tout aussi bien faire autre chose. L'important est qu'il fasse ce qu'il fait en toute liberté et en pleine conscience de ce que, comme tout autre détail de la création, il est une fin en soi. Il repose en lui-même comme une pierre sur le sable. Je peux même m'affranchir du pouvoir de la mort. Il est vrai que je ne peux me libérer de l'idée que la mort marche sur mes talons et encore moins nier sa réalité. Mais je peux réduire à néant la menace qu'elle constitue en me dispensant d'accrocher ma vie à des points d'appui aussi précaires que le temps et la gloire. Par contre, il n'est pas en mon pouvoir de rester perpétuellement tourné vers la mer et de comparer sa liberté avec la mienne. Le moment arrivera où je devrai me retourner vers la terre et faire face aux organisateurs de l'oppression dont je suis victime. Ce que je serai alors contraint de reconnaître, c'est que l'homme a donné à sa vie des formes qui, au moins en apparence, sont plus fortes que lui. Même avec ma liberté toute récente, je ne puis les briser. Je ne puis que soupirer sous leur poids. Par contre, parmi les exigences qui pèsent sur l'homme, je peux voir lesquelles sont absurdes et lesquelles sont inéluctables. Selon moi, une sorte de liberté est perdue pour toujours ou pour longtemps. C'est la liberté qui vient de la capacité de posséder son propre élément. Le poisson possède le sien, de même que l'oiseau et que l'animal terrestre. Thoreau avait encore la forêt de Walden. Mais où est maintenant la forêt où l'être humain puisse prouver qu'il est possible de vivre en liberté en dehors des formes figées de la société ?
donc pour ceux qui ont eu la patience d'écouter 20 minutes de chansons, on vous remercie, mais on vous dit que ces chansons c'est tellement belle qu'on pouvait pas ne les pas écouter jusqu'à la fin. Et tout à l'heure j'ai dit un héritage, moi je dirais plutôt un testament. Et ça me fait penser, comment s'appelle l'écrivain d'Ackermann, c'est qui a écrit le texte de la chanson?
Ah, c'est lui, c'est Stig d'Ackermann.
Stig d'Ackermann, il est mort suicide, non?
Ouais, en 54, à 31 ans.
À 31 ans en plus, mais il a écrit ce texte qui est vraiment beau, et qui ont eu les gens qui ont eu la patience de l'écouter, parce que on ne suit pas les formats de 3 minutes, les formats 3 minutes, 2 minutes, 5 minutes par chanson. Nous, on suit notre âme. Qui ont écouté notre âme, soyez les bienvenus, voilà. Et on vous laisse avec cet dernier morceau qui me fait penser beaucoup à Zweig. C'est un autre écrivain qui s'est suicidé, un écrivain autrichien qui s'est opposé au nazisme et après s'est suicidé. Il a écrit des récits très beaux, comme par exemple Les 24 heures de la vie d'une femme ou Les joueurs d'échecs. Il avait une sensibilité exceptionnelle, comme toi, Annick.
Anouchka.
Anouchka, pardon. Donc, Anouchka, je tiens vraiment à te remercier pour ce beau cadeau que tu m'as fait et que tu as fait tous les gens de Marseille.
C'est moi qui te remercie de m'avoir accueilli, de m'avoir laissé un peu m'exprimer, même si j'ai pas grand-chose à dire.
Ah, t'as dit beaucoup. Entre un sourire ironique et sarcastique, une bière et une sensibilité qui s'ouvre comme un flirt, t'as dit beaucoup. Bon, merci Anouchka et merci Sidi qui nous accompagne toujours avec son aide technique.
Et d'ailleurs, je confirme, il est très très beau. Hein.
Ah oui, oui, oui. Anouchka, elle est dangereuse. Sidi, fais attention, elle est dangereuse, je te dis. Alors, je vous dis merci tout le monde et au revoir à dès lundi sur Nino domani à Palermo.
Merci,
ciao.
Merci Simone.
Merci à toi.
Io sono il fortunato ragazzone, recente acquisto dell'umanità. Ho una superba faccia da frescone, esuberante imbecillità. Sportivo a tempo perso, un po' monello, con la pipetta in bocca me ne vo. Matteggio a prepotente, a picchiatello, poi saputello, eppure nulla so. Marcello, io sono il piccolo Marcello, baffutello, sbarbatello, sfrontatello e facciatello.
Marcello,
Marcello, sono più leggero di un fuscello, più prezioso di un gioiello, più innocente di un porcello.
Marcello,
Marcello di qua, Marcello di là, Marcello di su, Marcello di giù. È strano, lo so, ma un fascino, no, ce l'ho, ce l'ho, ma chi per dingrindina che ce l'ho? Marcello, son fatuo come un venticello, lieto come uno stornello, fesso come un somarello.
Marcello,
Marcello, col microscopico cervello, più piccino di un pisello, penso solo che sono bello, sono il bello di mamma. Ormai con la bellezza solamente si può ghermire la celebrità. Sono molto noto infatti dalla gente che come me non tiene a che pensare. Io so cantare come Raffaiani e vesto con quel certo non so che. Ho gusti delicati e raffinati, vorrebbe ognuno somigliare a me. Marcello, tutti mi chiedono il modello della giacca, del cappello, del colletto e dell'ombrello.
Marcello,
Marcello, mi copiano tutti questo quello dalla scarpa di vitello al mio passo di cammiello.
Marcello,
Marcello di qua, Marcello di là, Marcello di su, Marcello di giù, non vedo che me, non so neanche me. Marce, Marce, ma Marce, beh, che c'è?
Marcella.
Sì, a mezza voce canterello, qualche sciocco ritorniello, canton tutti sono quello.
Marcello.
Ma soldato questo quello, ma sta a casa, signor Marcello. Perché? Perché son bello. Sono il bello di mamma.